tous les lundis à partir de 12h30 dans Café Campus, nous aurons quelqu'un du magazine Pop-Up. C'est un média d'actualité étudiant, un site internet. Ils sont principalement étudiants à l'ISIC, mais pas que. Aujourd'hui, c'est Raphaël qui vient nous faire un tour d'actualité. Ce sera comme ça tous les lundis. Alors, pas forcément avec toi, Raphaël, mais en tout cas, salut à toi.
Salut Léo. Et cette année, Pop-Up arrive sur Radio Campus Bordeaux pour vous proposer un récapitulatif et un décryptage des actualités de la semaine passée. Et pour cette première édition, on commence par les titres. J'ai toujours rêvé de dire ça. Vladimir Poutine a signé ce week-end l'annexion de 4 régions d'Ukraine. Jeudi dernier, d'importantes manifestations ont eu lieu dans toute la France pour une hausse des salaires en réponse à l'inflation. La semaine a aussi été marquée par des explosions sous-marines causant plusieurs fuites d'un gazoduc au large du Danemark. Mais avant tout, je souhaitais débuter par une actu qui a secoué les réseaux sociaux la semaine dernière. Je parle bien évidemment de la mort de Coolio. Et oui, artiste Léon Ivey, plus connu sous le pseudonyme de Coolio, chanteur de la très célèbre chanson Gangsta's Paradise, nous a quittés ce mercredi 28 septembre à l'âge de 58 ans. Si pour le moment les causes de sa mort restent incertaines, Coolio est un artiste qui a marqué le rap. Sorti le 9 août 1995, Gangsta's Paradise est le single le plus vendu cette année-là et se place à la 69e position des meilleures chansons de tous les temps selon le magazine Billboard. Le titre est une adaptation à la sauce gangster de Pastime Paradise de Stevie Wonder. Les paroles reflètent la violence et la tragédie de la vie des gangsters. La chanson est véritablement marquante dans l'histoire de la musique, puisqu'il s'agit d'un des premiers morceaux issus du gangsta rap à réussir commercialement. Ainsi, Coolio nous quitte après avoir laissé son empreinte sur les esprits de millions de personnes à travers des paroles sombres et son orchestration culte. On espère pour lui que là où il est, il retrouvera ceux qui ont passé leur vie au paradis des gangsters. Sans transition, ce jeudi 29 septembre, à l'appel des syndicats CGT, FSU et Solidaires et d'organisations de jeunesse, des manifestations ont eu lieu partout en France. Une journée de grève qui s'est déroulée dans environ 200 lieux de rassemblement et qui a mobilisé plusieurs milliers de personnes. Cette journée exceptionnelle est une réponse à l'inflation de plus de 5,9% du mois d'août dernier. Les principales demandes des manifestants étaient une hausse des salaires et des aides afin de faire face à la vague de précarité que va causer cette inflation inédite directement en lien avec la guerre en Ukraine. Cet élan de grève se poursuit au sein des raffineries d'hydrocarbures de Total, qui va d'ailleurs verser un dividende de 2,62 milliards d'euros à ses actionnaires. J'abordais à l'instant le conflit russo-ukrainien. Ce dernier s'est vu vendredi dernier évoluer puisque Vladimir Poutine a revendiqué 15% du territoire ukrainien en signant l'annexion de 4 régions. Poutine a déclaré que l'Ukraine et ses véritables maîtres à l'ouest doivent savoir que, je cite, « les citoyens de Luhansk, Donetsk, Zaporijja et Kherson sont devenus nos citoyens pour toujours ». Dans les faits, les forces russes sont sur la défensive alors que les forces ukrainiennes mènent des contre-offensives dans ces régions. Au moment où Poutine parlait, les forces ukrainiennes étaient en train d'encercler les positions russes dans la ville de Liman, au nord de Donetsk. Le conflit s'envenime puisque le Kremlin a déjà suggéré que les territoires seraient désormais sous le parapluie nucléaire de la Russie et que les attaques là-bas pourraient donc être accueillies par une réponse nucléaire. Tandis que Washington annonce débloquer une nouvelle tranche d'aide militaire de 1,1 milliard de dollars pour l'Ukraine. Depuis le début du conflit, plusieurs estimations révèlent que les combats auraient causé la mort de plus de 20 000 personnes. Le début de la semaine a aussi été marqué par la victoire du parti souverainiste Frères d'Italie aux élections législatives italiennes. Guidée par Giorgia Meloni, la coalition inquiète les intellectuels et journalistes politiques, décrivant cette victoire comme une crise politique. Meloni, qui sera sûrement élue première ministre, affirmait à l'âge de 19 ans que le dictateur Benedito Mussolini était un bon politicien. Son parti est l'héritier du mouvement social italien, parti néo-fasciste créé après la Seconde Guerre mondiale. La devise de la politicienne n'est autre que Dieu, famille, patrie, soit un mot celle de la France de Vichy. Giorgia Meloni a annoncé que ses priorités seront de fermer les frontières pour protéger l'Italie de l'islamisation, de renégocier les traités européens pour que Rome reprenne le contrôle de son destin et de lutter contre les lobbies LGBT. Pour citer l'article de notre nouveau rédacteur Manuel Courallet, beaucoup considèrent que la victoire de la coalition de Giorgia Meloni est un synonyme de post-fascisme. La situation en Italie marque donc un terrifiant retour en arrière et confirme une tendance en contradiction avec les idées progressistes de notre époque. Enfin, comme dernière grosse actu de la semaine dernière, les gazoducs Nord Stream 1 et 2, se situant au large de la Suède et du Danemark, et qui relient la Russie et l'Allemagne, ont été tous deux subitement touchés par des fuites inexpliquées. Ces fuites ont causé des bouillonnements pouvant aller de 200 mètres à 1 km de diamètre à la surface de la mer Baltique. Selon les déclarations de la première ministre danoise, Mette Frederiksen, ces quatre fuites étaient dues à des actes délibérés et pas à un accident. Elles seraient dues à des explosions sous-marines correspondant à des centaines de kilos de TNT. Des enquêtes sont en cours et la piste d'un sabotage planifié en lien avec le conflit Russie-Ukraine est possible selon plusieurs autorités. Les deux gazoducs étaient inactifs suite à la guerre en Ukraine, mais ces derniers étaient toujours remplis pour des raisons techniques. Ces fuites ont actuellement des répercussions écologiques terribles. En effet, dans ces gigantesques pipelines, on retrouve pas moins de 90% de méthane, qui est un gaz à effet de serre très néfaste pour le climat. Des experts comparent ces fuites aux émissions annuelles d'1,4 million de véhicules. Le Danemark a estimé que plus de la moitié du gaz a déjà fui, et que si les deux gazoducs se vidaient entièrement, ils relâcheraient l'équivalent des émissions d'une centrale à charbon en un an. Et pour finir ce journal d'actualité, je vous recommande un article sorti la semaine précédente que j'ai trouvé très intéressant et qui m'a plu. Bon, alors je ne risque pas trop de surprendre ceux qui m'écoutent le mercredi dans Passage, mais cette semaine, je vous invite à lire l'article du journaliste Jérôme Lachasse intitulé « C'est plus excitant qu'un film, comment le jeu vidéo est en train de supplanter le cinéma ». Cet article revient au travers d'interviews de différents professionnels du cinéma et du jeu vidéo sur la dimension narrative des œuvres vidéoludiques et parle aussi de leur explosion en popularité à la suite de la désertion des salles de cinéma. L'article va même plus loin et s'interroge sur les évolutions possibles et l'influence que les deux médiums ont l'un sur l'autre. C'est à retrouver sur le site web de BFM TV, et oui, je l'avoue, j'ai un peu triché puisque l'article est sorti le 24 septembre et ce journal couvre la semaine du 26 septembre au 2 octobre. Bref, la semaine prochaine, vous retrouverez un autre chroniqueur ou une autre chroniqueuse de l'association Pop-Up au micro. Du coup, je vous dis à une prochaine fois et surtout, soyez bons envers les uns et les autres.